Cet enseignement gratuit est donné par le Père Nathanaël Pujos. Le Père Nathanaël a une maîtrise de philosophie à la Sorbonne et de théologie dogmatique à la Grégorienne à Rome. Il exerce actuellement un ministère de formation dans le diocèse de Denver, au Colorado. Le titre de cet enseignement est « Pourquoi être chrétien et catholique ?». Vous pouvez télécharger l'enseignement ainsi que la fiche du texte sur le site dogmatique.net. Cette seule question choque aujourd'hui, notamment en France, tant elle semble vouloir imposer à tous orgueilleusement une croyance dite privée et personnelle. Pourquoi cette question provoque-t-elle? Pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de présenter sa foi catholique à ce monde qui pourtant n'en a jamais eu autant besoin? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? De quoi avons-nous honte? Nous avons pourtant le produit le plus merveilleux et le plus facile à vendre, c'est l'amour sans condition de Dieu pour tout homme sans exception, cet amour manifesté en Jésus-Christ. Cette honte du croyant, notamment en France, elle est très actuelle. Nous trouvons dans l'hyperinflation des connaissances, et notamment des connaissances scientifiques, nous trouvons dans les croyances et les opinions, de plus en plus nombreuses et relatives, une espèce de flou métaphysique qui est confortable, finalement, pour ne pas s'engager. On entendra souvent les gens dire « moi je suis spirituel mais pas religieux » ou bien « toutes les religions se valent ». Il s'agit en fait surtout d'un prétexte pour ne pas s'engager et puis parfois pour cacher, il faut bien le dire, notre misère morale, car c'est bien souvent de cela qu'il s'agit. Combien de personnes ne veulent plus entendre la voix de l'Église catholique parce qu'ils ne se sentent pas conformes à sa doctrine sexuelle principalement. Et c'est pourtant toujours l'amour qu'ils cherchent, même maladroitement. Alors quel gâchis, quel gâchis. Et combien nous avons plus à leur donner. Donnons-leur le Christ, donnons-leur le Christ. Ce petit enseignement vise à proposer une piste pour amener les âmes au bonheur du Christ. Disons-le clairement, s'il y avait un moyen simple et immédiat pour amener toute intelligence au Christ, ça fait longtemps que tout homme serait chrétien. Et ça n'est pas le cas évidemment. En effet, il n'y aura jamais de preuve rationnelle de la vérité du christianisme, et cela pour une raison très simple, c'est que nous croyons que Dieu nous aime et qu'il n'est qu'amour. Or, un amour ne se prouve pas scientifiquement. Il ne s'impose pas à la raison, mais au cœur. Pouvez-vous par exemple prouver rationnellement que vos parents vous aiment? Bien sûr que non, bien sûr que non. Et pourtant, c'est une certitude qui va bien au-delà des certitudes scientifiques que vous connaissez, car tout en eux et autour de vous vous dit qu'ils vous aiment. Eh bien, il en va de même avec Dieu. Il nous a créés libres et veut notre amour libre. Il ne forcera jamais notre adhésion et notre liberté. Mais il donnera assez de lumière à notre intelligence pour illuminer et guider ceux qui veulent le voir, tout en laissant assez d'obscurité pour ne forcer aucune liberté humaine. Par essence, l'amour fonctionne ainsi. Il ne force pas. Alors, quelles sont ces lumières que Dieu donne à notre intelligence? Quels sont les arguments pour rendre les cœurs au moins disponibles à rencontrer l'amour inconditionnel de Dieu tel qu'il a été exprimé dans la création, révélé dans l'Ancienne Alliance et manifesté d'une façon définitive dans la personne de Jésus-Christ, annoncé ensuite dans l'Église catholique par l'action de l'Esprit-Saint? Eh bien, nous allons procéder en trois étapes très logiques. La première, de l'athéisme au monothéisme. La seconde, du monothéisme au christianisme. Et la troisième, du christianisme au catholicisme. Première étape, de l'athéisme au monothéisme. Donc, il s'agit là de répondre à la question « est-ce que Dieu existe ?» de proposer une réponse rationnelle à cette question. Qu'est-ce que nous avons en commun tous? Nous avons en commun l'observation de l'univers. Observons simplement l'univers autour de nous. Prenons du recul par rapport à tout ce que nous avons pu entendre et écoutons notre bon sens. Bon sens qui est confirmé aujourd'hui par tout scientifique, à condition évidemment qu'il ne soit pas idéologue et qu'il ne soit pas par principe anti-religieux. Eh bien, ce bon sens est confirmé par tout scientifique, quelle que soit sa spécialité, du reste, du biologiste aux physiciens, à l'astrophysicien, et ils reconnaissent une réalité simple et évidente, c'est que la probabilité que cet univers, si parfaitement réglé, provienne d'un créateur, ils parleront en général d'une cause personnelle intelligente, eh bien cette probabilité est de l'ordre de 99,99999%, et même bien plus fine encore que cela, bien plus proche de 100%. Une image revient souvent pour nous faire mesurer l'ampleur de cette probabilité. C'est l'image suivante, c'est celle du chimpanzé et de la machine à écrire, peut-être que vous la connaissez. Prenez un chimpanzé, placez-le devant une machine à écrire et il tapera au hasard sur les touches. Eh bien, la probabilité que notre chimpanzé réécrive dans l'ordre et parfaitement toute l'œuvre de Shakespeare, par exemple, cette probabilité est infiniment plus grande que la probabilité qu'avait l'univers d'exister et d'être viable pour nous. Il n'est pas question ici de croyance, d'opinion ou de pari, c'est simplement un calcul mathématique de probabilité, strictement rien d'autre qu'un calcul de probabilité. L'univers repose sur certaines constantes fondamentales, gravitationnelles, nucléaires, la constante de Planck, etc. Et ces constantes sont réglées avec une telle précision de l'ordre du milliardième de milliardième de milliardième qu'elles ont permis l'apparition de la vie. Mais si vous changiez infinitésimalement l'une de ces constantes, eh bien jamais l'univers n'aurait existé. Tout ça pour dire que il y a une intelligence derrière cette cohésion de l'univers. La cohésion de l'univers et l'apparition de la vie reposent sur une série de constantes physiques tellement fines et tellement parfaitement réglées qu'elles ne peuvent l'avoir été que par une intention intelligente et en aucun cas par hasard. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'intelligent design. Vous pouvez également vous renseignez sur ce qu'on appelle le fine tuning, le réglage extrêmement fin, fine tuning, ou également le principe anthropique, selon lequel il est évident même scientifiquement que cet univers a été créé par une intelligence bienveillante pour l'homme, pour l'apparition de l'homme sur la Terre. Cette évidence scientifique, elle est du côté d'un univers créé par un créateur, et c'est penser l'inverse qui est idéologique et partisan. Donc ce premier pas, qui nous arrache à l'athéisme, ne fait appel qu'à notre bon sens et à l'intelligence de l'humilité. Le premier pas n'est pas religieux, il est simplement rationnel et même ultra-rationnel. Tout ce qui existe a une cause, à plus forte raison, l'œuvre d'art incroyable qu'est l'univers que nous connaissons. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire, par exemple, que la Pietà de Michel-Ange, que vous connaissez sans doute, a été le fruit du hasard, de l'érosion, du vent et du marbre, et qu'elle est apparue comme ça, à partir de rien du tout. Eh bien, infiniment plus pour l'univers, l'œuvre d'art est tellement fine que, évidemment, elle vient d'un créateur. Qui est alors ce créateur? Quelle est cette cause personnelle, intelligente, infiniment puissante, et vraisemblablement bienveillante? C'est le deuxième chapitre du monothéisme au christianisme. Dans cette seconde étape, nous allons nous tourner non plus tant vers notre raison, mais vers ce qu'il y a de plus profond en nous, notre cœur. Nous allons sonder notre cœur, et en sondant notre cœur, nous avons de très bonnes raisons de croire que cette cause personnelle, créateur du monde, est amour et qu'elle n'est qu'amour. D'abord, il nous a créés sans avoir besoin de nous, ce qui est une marque d'amour. Ensuite, il apparaît que nous ayons été créés pour être aimés et pour aimer, et que ce soit la vocation universelle de tout homme et de toute femme sur cette terre. D'où vient une telle affirmation? Eh bien, de notre cœur. Identifiez les moments de votre vie où vous avez été le plus heureux. Prenez un moment, faites mémoire, et regardez ces moments-là, et vous découvrirez que ce sont les moments où vous avez le plus aimé, ou bien ceux où vous étiez le plus aimé. Tout ce que nous faisons, finalement, n'a d'autre but que d'étancher en nous cette soif d'aimer et d'être aimé. Pensez-y, nous sommes des êtres d'amour créés pour aimer et être aimé. Alors, à partir de là, cherchons parmi les différentes religions, qu'elles soient naturelles ou que ce soit la religion révélée, quelle est celle qui présente le plus le visage du Créateur comme étant amour, maximum de l'amour. Eh bien, si vous faites une recherche honnête, Cette recherche honnête vous portera à la révélation chrétienne. Dans la révélation chrétienne, Dieu n'est pas un juge, il est un père aimant, un papa, dit même tendrement Jésus, un papa. Quand vous priez, dites « notre Père », dites « papa ». Jésus nous enseigne que Dieu est en lui-même amour, circulation éternelle d'amour, c'est ce que nous appelons le mystère de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, le Père aimant, le Fils aimé du Père et l'Esprit Saint qui est cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même exprimer cet amour en devenant homme au milieu des hommes, ses créatures. Cet homme, Dieu, c'est Jésus, bien sûr. Et Jésus ne fait qu'annoncer l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Cet amour sans condition, sans aucune condition. Ce qui est assez difficile à concevoir pour nous, êtres humains limités, parce que la plupart des amours que nous connaissons sur Terre sont toujours des amours conditionnels. Eh bien, le christianisme, la révélation chrétienne nous présente l'amour inconditionnel de Dieu. Et Jésus n'a pas fait que l'annoncer, il le prouve. Il prouve cet amour inconditionnel par sa vie, par ses enseignements, par ses actes, par ses miracles, et finalement par sa mort sur la croix pour les hommes. Le seul commandement qu'il nous laisse, c'est d'aimer notre prochain quel qu'il soit. Cet amour de l'autre et de Dieu nous rend semblables à lui et nous ouvre à la vie éternelle. Très franchement, cette révélation chrétienne dépasse tout ce qu'un homme aurait pu rêver ou inventer. Quel insensé aurait pu inventer de telles inepties ? Le Dieu éternel et tout-puissant, le créateur du monde qui tient les galaxies dans le creux de ses mains, eh bien, ce Dieu tout-puissant serait devenu un tout petit bébé, livré entre les mains de ces créatures humaines et finalement se laissant tuer par elles, par amour. Jamais, jamais des hommes, si malins soient-ils, n'auraient inventé une telle religion. Elle se devait d'être révélée. Si Dieu existe, et s'il n'est qu'amour, comme semblent le soupirer nos cœurs d'hommes, alors il ne peut être qu'amour absolu. Et il convient alors de chercher, parmi toutes les religions, celle où la folie de l'amour de Dieu va le plus loin. Beaucoup de religions ou de croyances présentent des dieux qui ne sont rien de plus que des projections très rationnelles, finalement, de nos désirs ou de surhommes, puissants et immortels, bons mais juges, parfois sévères, toujours rémunérateurs, sauvant le fidèle, punissant l'infidèle, etc. Un amour toujours conditionnel, limité. Je t'aime si. Seule la révélation chrétienne nous présente Dieu dans la folie d'un amour sans condition et sans limite, dépassant de loin tout ce qu'une intelligence humaine pouvait imaginer ou même rêver. Tout y est joie, tout y est amour. Un grand théologien du siècle passé, Balthazar, résume cela en disant « Dans le christianisme, il y a plus de vérité parce qu'il y a plus d'amour absolu. » Dans le christianisme, il y a plus de vérité parce qu'il y a plus d'amour absolu. C'est ce principe qui guide notre raisonnement ici. Mais la folie de l'amour de Dieu va encore plus loin. Nous allons maintenant passer au troisième chapitre qui est du christianisme au catholicisme. C'est-à-dire, finalement, concrètement, pourquoi au sein des différentes confessions chrétiennes, qu'elles soient catholiques, orthodoxes, c'est la même chose, c'est la même foi, mais et protestantes, eh bien, pourquoi notre foi catholique et orthodoxe, encore une fois, est la plus accomplie et possède la plénitude de la révélation de l'amour de Dieu. Alors reprenons rapidement notre cheminement. Le bon sens et un calcul mathématique de probabilité nous ont porté à l'existence d'un Dieu créateur de l'univers et intelligent. Deuxième étape, l'écoute de notre cœur, c'est-à-dire du plus profond de ce qui parle en nous, nous a porté à ce créateur suffisamment fou d'amour pour l'homme pour venir s'incarner et venir habiter parmi nous, pour nous révéler son amour. C'est la révélation du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Maintenant, au nom de quoi affirmer que la plénitude de la vérité se trouve dans l'Église catholique, et non dans les églises protestantes, si pleines de gens saints soient-elles parfois. Il ne s'agit pas ici de juger de la sainteté des personnes, mais il s'agit simplement de juger de la doctrine. Il s'agit seulement d'affirmer pleinement que la plénitude de la beauté et de l'amour de Dieu est exprimée par la foi de l'Église catholique, Église inspirée pleinement par l'Esprit Saint depuis Saint Pierre. Les protestants ont compris cette beauté, mais ils s'arrêtent en chemin, si je puis dire, et cela, malheureusement, pour des raisons bien humaines et tristement historiques. Et là, l'Église a aussi sa lourde part de responsabilité. Je le dis clairement, les protestants n'ont pas vu pleinement jusqu'à où va l'amour de Dieu pour les hommes. Ils ont oublié la plénitude de la révélation de cet amour. Peut-être que les bons catholiques le leur ont fait oublier, hein, comme on dit, les bons catholiques, entre guillemets. Pour eux, pour les protestants, Dieu n'est pas fou d'amour pour l'homme au point de devenir vraiment, pour lui, pain de vie, substantiellement, dans l'hostie consacrée, comme Jésus le dit pourtant très clairement, très très clairement dans plusieurs passages de l'Évangile. Pour eux, Dieu n'est pas fou d'amour au point de glorifier ses enfants, de glorifier l'humanité, d'abord dans sa mère, la Vierge Marie, Immaculée, Immaculée Conception, vous savez que les protestants n'ont pas de dévotion à la Vierge Marie, puis, pas seulement en Marie, mais dans le culte des saints, que Dieu glorifie, c'est ce qu'on appelle la communion des saints, et enfin dans l'Église fidèle et sainte, infaillible dans sa foi, bien que souvent pécheresse dans ses membres. Pour eux, enfin, Dieu n'est pas fou d'amour, au point de pouvoir choisir parmi ses enfants des médiateurs de sa miséricorde et de son pardon, je veux parler ici des prêtres, dans le sacrement de réconciliation. Donc vous voyez, ces chrétiens protestants n'ont pas compris jusqu'à quel point la folie de l'amour du Père pouvait aller. Ce sont des amoureux timides, finalement. Des amoureux timides, et encore une fois, nous avons beaucoup à recevoir d'eux, mais nous avons bien plus à donner, bien plus à apporter. Du moins, du point de vue de la compréhension que nous avons de la beauté du Christ et de l'amour du Père. Dans le catholicisme, il y a plus de vérité parce qu'il y a plus d'amour absolu. Plus que dans les projections religieuses naturelles, si achevées soient-elles, même monothéistes, plus même que dans la foi chrétienne protestante. Alors en conclusion, je dirais simplement que ce petit enseignement n'aura pas peut-être convaincu les cœurs. Son but était simplement d'essayer d'ouvrir les raisons, les intelligences humaines à la révélation de l'amour de Dieu, d'ouvrir la porte de la raison afin que Dieu puisse parler au cœur, si je puis dire. Ce qui peut convaincre les cœurs, et Jésus le dit lui-même dans son évangile, c'est que c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres, cet amour que nous pouvons présenter à ce monde qui en a tant besoin, et cet amour qui dépasse complètement l'intelligence humaine. Pensez aux martyrs qui prient alors qu'ils sont persécutés et torturés, qui prient pour leurs bourreaux. Vous n'avez ça dans aucune autre confession, religion naturelle, aucune autre, uniquement dans la religion catholique. Eh bien, ces martyrs, ces saints, font infiniment plus de conversions que les théologiens, bien sûr, mais ça n'est pas une raison pour ne pas défendre notre foi également au niveau de la raison, parce que la raison est la porte du cœur. C'est par notre amour que nous amènerons les cœurs au Christ, et bien souvent par notre manque d'amour que nous avons détourné les gens de la foi catholique, et bien c'est là qu'il faut travailler. C'est exactement ce que dit Éloi Leclerc à la fin du livre « Sagesse d'un pauvre », qui est l'un des plus beaux livres, je crois, que je connaisse. C'est un livre à propos de la vie de Saint François d'Assise, et à la fin du livre, donc l'un des frères franciscains demande à François: que signifie évangéliser les hommes? Voilà la réponse de Saint François d'Assise. La chose la plus urgente est de désirer avoir l'Esprit du Seigneur. Lui seul peut nous rendre bons, foncièrement bons, d'une bonté qui ne fait plus qu'un avec notre être profond. Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Amen.